Alors, en commençant à réfléchir un petit peu à ce thème, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Des choses, il y a de la théologie, puis il y a des choses pratiques. Là, on est dans un cours de doctrine appliquée, donc on va quand même poser le fondement quand même théologique, et après, on va rentrer dans les choses plus concrètes et plus pratiques, puisque c'est un cours de doctrine appliquée, donc ça veut dire comment la parole de Dieu. La parole de Dieu est extraordinaire. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, donc pour nous apprendre à penser avec Dieu. Et elle va avoir forcément une influence à l'intérieur de notre être, de notre intelligence, de nos pensées, de nos émotions, de notre conscience, de tout notre être. Et elle va forcément, la parole de Dieu, lorsqu'elle est crue, lorsqu'elle est reçue, et c'est important. C'est pour ça que notre attitude face à la parole de Dieu, c'est de l'écouter, c'est de l'entendre, c'est de la recevoir. Elle va faire un travail en profondeur et elle va transformer. Et notamment, elle va nous aider dans nos relations. Parce que si vous regardez autour de nous, si vous regardez même à côté de vous, même en vous peut-être, c'est compliqué les relations. Compliqué, compliqué. À cause du péché, bien sûr. À cause du monde, à cause du malin. À cause de notre chair, c'est compliqué. Mais pourtant. Donc, Seigneur, merci de nous encourager ce soir, ces quelques minutes ensemble, d'élever le nom de Jésus et la parole de Dieu et la vérité qui nous a franchis. Et instruis-nous afin que, oui, Seigneur, nous grandissions et nous découvrions le privilège que tu nous offres d'être dans le corps de Christ pour établir des relations qui soient saines, éternelles et qui porteront un fruit éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ça commence déjà avec un Dieu, évidemment. Le fondement de tout, c'est Dieu. Il est à l'origine de tout, il est à l'origine de la vie. Et il est à l'origine des relations, puisque lui-même est un être relationnel, il est trinitaire. Et comme nous avons été créés à son image, eh ben, nous aussi, il nous a donné d'être des êtres relationnels. C'est-à-dire qu'on voit ça. Dans Genèse 2,18 en particulier, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps avec, tout le temps avec quelqu'un, mais on est appelé à avoir. On a été fait, fabriqué pour avoir des relations. Des relations les uns avec les autres, et notamment d'avoir une relation avec notre Créateur. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'humanité. C'est ce rejet de cette relation avec Dieu qui est la source. La cause de tous les problèmes relationnels qui vont suivre derrière. D'accord? Donc, on a tous ce désir d'établir des relations avec les autres. Et ça, on le voit tout de suite avec les enfants. Un exemple très simple, hein. Vous laissez les enfants, vous allez à une aire de jeu, vous allez avec votre petit, il ne connaît personne, et 5 minutes après, il est copain avec tout le monde. En gros, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. On fait des jeux, on court, toi t'es le chef, toi tu fais ceci, toi t'es le bandit, toi t'es le policier. Enfin voilà. Alors après, il peut y avoir des fois des enfants qui ont plus de timidité ou de problèmes ou quoi, mais en règle générale, les enfants, au bout d'un moment, ils se connaissent tous, ils jouent ensemble, même s'ils ne connaissent pas la même langue. Mais pour jouer ensemble, ils vont se débrouiller. D'accord? Donc voilà, c'est nous. Hein. Alors quand on est adulte, c'est plus compliqué. Bien sûr. Parce que le péché, justement, a entaché le cœur humain, et les relations sont souvent source de grandes souffrances, de grandes peines, de grandes difficultés relationnelles, blessures, une trahison, une amitié, une confiance trahie, enfin des choses comme ça qui sont la cause. Alors, l'amitié qui est trahie, bien sûr. En amour, ben voilà, dans un couple, une femme qui est délaissée, un homme qui est trompé, c'est le quotidien du monde dans lequel nous vivons. Et malheureusement, ça cause des souffrances terribles. D'accord? Et beaucoup de crimes, d'ailleurs, à l'origine, sont souvent motivés par une trahison en amitié ou en relation amoureuse ou des choses comme ça. Les gens, ils sont emportés par leurs émotions et font des choses terribles. La trahison aussi dans les familles, les relations entre parents-enfants, aujourd'hui, ça devient compliqué. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit, hein, que dans les derniers temps, les enfants seront, en Timothée Est-ce que c'est ça? Oui, dans 2 Timothée 3:2, les enfants seront rebelles à leurs parents. Enfin, c'est écrit rebelles à leurs parents. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Donc il y a dans les mêmes familles où normalement on devrait avoir des relations. Ça devrait être normal, mais si on regarde aujourd'hui, beaucoup de familles sont dysfonctionnelles. Beaucoup de familles sont déconstruites et reconstruites. Alors on dit que tout va bien en apparence, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, beaucoup de tragédies dans les cœurs. Donc on se rend compte que ce principe des relations, il nous concerne tous. D'accord, puisqu'on est tous des êtres relationnels. On a tous eu notre histoire, on a notre passé, on a peut-être des choses difficiles. On a peut-être un futur qui nous attend, qui peut être difficile. Et donc, comment on gère ça? Comment on vit ça? Des fois, les relations sont difficiles même entre voisins. Un voisin qui déborde un peu, qui abuse un peu, qui fait du bruit très tard le soir, qui respecte pas les autres, hein, qui empiète sur les autres. Les relations au travail, un collègue de travail qui vient nous harceler, qui vient nous empiéter sur notre intimité, sur notre vie personnelle. La jalousie. D'ailleurs, le travail, souvent, c'est pas le travail qui fatigue les gens, c'est les problèmes relationnels au travail qui fatiguent les gens. Hein. Les histoires, les commérages, les critiques, les... Voilà. Entre jeunes aussi, la comparaison. Les jeunes, les enfants sont durs, hein, des fois, dans leurs commentaires. Et ils sont durs entre eux. Les jeunes aussi, aujourd'hui, avec leurs moyens de communication, leurs réseaux sociaux, ils sont très durs. Ils font des commentaires blessants, dégradants. Donc les gens sont... Beaucoup de gens souffrent. Si on est honnête, qui peut dire n'a pas souffert ou qui ne souffre pas à cause d'une relation difficile avec quelqu'un. Et tout ça, c'est parce que, justement, on est tous en grand besoin de relations. Et on recherche dans les autres ce besoin de combler une valeur, une sécurité. On dépend beaucoup du regard des autres, d'autant plus quand on est jeune et qu'on se construit. Mais même adulte, on dépend du regard des autres. On suit les modes, les effets de mode, les pressions de groupe. Les jeunes, souvent, ils font des trucs insensés parce que c'est le groupe. Et si on est honnête, on a tous besoin des autres. Et on est tous conditionnés par la société, la culture, l'éducation et les relations que nous entretenons avec notre prochain. Le problème, c'est que c'est le péché qui a faussé les relations, qui a donné un mauvais fondement aux relations qu'on établit avec les autres. Et toutes les relations naturelles, elles sont biaisées quelque part. Parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a le péché, parce qu'il n'y a pas le bon fondement. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, si vous faites la connaissance d'une nouvelle personne, au départ, tout est beau, tout est joli. Hein. Puis on essaye de lui montrer toujours le bon côté, on essaye quelque part de séduire l'autre. On essaye qu'il nous aime. On essaye qu'il devienne notre ami. Hein. Pour recevoir quoi? Pour avoir de l'intérêt, recevoir de l'affection, des avantages peut-être. Parce que, en fait, ces relations-là aussi, c'est que ça peut nous servir. Ça peut nous aider, ça peut nous aider dans notre identité, dans notre valeur, dans notre sécurité, matériellement, dans des tas de domaines. Et ces relations sont faussées parce que, justement, le fondement est mauvais, le fondement, c'est moi. Elles sont établies sur moi, sur mes besoins, sur mes désirs, sur mes attentes. Ces relations sont basées sur l'ego, sur les besoins, sur nos désirs, sur nos attentes. Et évidemment, il ne faudra pas très longtemps pour voir que les désirs ne sont pas forcément les mêmes, les attentes ne sont pas forcément les mêmes, ou on n'est pas capable de répondre aux attentes de l'autre. Et donc, il y a beaucoup de frustration après. Et puis, l'amour se transforme en haine rapidement, en jugement, en critique. Alors, qu'est-ce que les gens recherchent dans les relations ? Ben, on recherche l'amour, évidemment, l'amitié. On recherche l'amour, on recherche l'âme sœur. D'accord ? Il y en a qui cherchent, sont toujours en recherche de l'âme sœur, pensant qu'elle existe. On recherche de l'affection. Hein ? On recherche aussi la sécurité dans différents domaines. On recherche la sécurité matérielle, peut-être. La sécurité financière, hein, la sécurité psychologique. Hein, quand c'est, voilà, une femme va peut-être aller avec un homme qui est intellectuel, qui a de la connaissance, qui a un prestige, qui a une position sociale. Voilà, ça lui donne de la valeur, ça lui donne une sécurité. On recherche la reconnaissance. On a besoin d'exister, on a besoin de valeur, n'est-ce pas ? On cherche à être reconnu, apprécié, aimé, être compris. Aussi, quelquefois, on recherche juste de ne pas être seul. Et ça, c'est tragique. Hein. Il y a des femmes qui préfèrent être avec un homme qui la bat plutôt que d'être seule. Et souvent, ça commence une fois et on reproduit toujours le même schéma. Mais elle préfère ça, d'être battue plutôt que d'être seule. C'est juste le monde dans lequel nous vivons, hein, voilà. Ensuite, en fait, on recherche dans ces relations à compenser le manque de Dieu, à combler le vide. Donc on établit des relations, voilà. Et on a des relations, puisqu'on vit dans ce monde, on voit des gens, on croise des gens. Alors, il y a des relations qui sont plus proches que d'autres. Hein. Évidemment, vous n'avez peut-être pas la même relation avec votre boulanger que vous voyez une fois tous les 6 mois, ou avec votre voisin, ou avec un membre de famille, ou avec un ami, enfin, avec un collègue de travail. C'est le péché, en fait, qui nous a séparés de Dieu et qui a mis une séparation. C'est Ésaïe 59, verset 2, il dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, le péché qui est en nous, quelque part, c'est cette mort qui est quand on a... Voilà, parce qu'on est pécheur, on est mort, on n'a pas de communion avec Dieu, on n'a pas cette relation. Si on n'a pas de relation avec notre Créateur, vous imaginez bien que ça va être compliqué d'avoir des relations saines avec les autres. Puisque la première relation, elle n'est pas établie. Et ce qui est tragique, c'est que, en fait, l'homme rejette, parce qu'il est pécheur, rejette cette relation avec Dieu. On est dans un monde où on rejette Dieu. On ne veut pas de Dieu. Et donc, ils vont compenser, ne voulant pas de cette relation avec lui. Ils vont essayer de compenser ce vide et ce manque. En le remplaçant par des relations humaines, des relations naturelles, des relations charnelles, des relations passionnées, des relations illicites, en pensant que on n'a pas besoin de Dieu, puisque nous, on peut. Hein, on a été créés à l'image de Dieu, et avec la connaissance du bien et du mal, on est comme des dieux. Donc on n'a pas besoin de Dieu, on peut se débrouiller nous-mêmes. D'accord ? Et ils vont rechercher donc ces fondements qui sont la valeur d'être et la sécurité, l'amour. Et Paul le dira dans Romains chapitre 1, versets 18 à 28, même jusqu'à 32, mais je vais vous dire que quelques versets. Verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » On a rejeté le Créateur et on a mis la créature à la place. Et comme on n'a pas de relation avec le Créateur, on va essayer de compenser avec une relation avec la créature. Et les conséquences, c'est que l'homme s'enfonce en fait dans son péché. Au verset 26, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Et ils ne se sont point, verset 28, ne se sont point souciés de connaître Dieu, de les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et là, la liste, ça, si vous voulez, ça, le fait de rejeter Dieu, ça les a enfermés encore plus dans leur péché. Parce que des fois, le péché, on dit c'est le mal. Oui, mais en fait, c'est de manquer le but. Une des définitions du péché dans la Bible, c'est de manquer le but. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec nous. Nous, on manque le but d'avoir la relation avec Dieu. Donc, on a un autre objectif. Et on s'enfonce dans notre rébellion, on s'enfonce dans notre orgueil, on s'enfonce dans notre folie, on s'enfonce. Et c'est pour ça que, pour nos jeunes gens, c'est tragique. Parce que on commence, et si on n'établit pas le bon fondement... Pasteur Brian a dit ça derrière moi, j'ai écouté dans un message. Et Pasteur Brian a été missionnaire ici pendant quelques années, 4 ans je crois, avec sa famille, avec ses 3 petits enfants qui sont adultes et maintenant parents aussi, et missionnaires pour certains. Il a dit ceci. Écoutez bien. Pour ceux qui m'écoutent aussi sur Internet, là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il a dit que la quantité d'informations, alors ça c'est juste information, mais ouais, la quantité d'instructions, d'informations que l'on peut recevoir en 4 ans d'institut biblique, c'est la même chose si on vient une fois par semaine au culte, on l'aurait en 38 ans. Et il disait, c'est quand même mieux de poser le fondement au départ plutôt que de l'acquérir à la fin de sa vie pour se rendre compte qu'on a vécu déjà sa vie et qu'on découvre le fondement à la fin. Alors, on se convertit quand on se convertit, d'accord ? Dieu rachète, Dieu est gracieux, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on ne met pas le fondement au départ, si on ne met pas Dieu et notre relation avec Dieu, basée sur la parole de Dieu, basée sur la vérité, basée sur l'œuvre accomplie, basée sur la grâce de Dieu au départ, ce n'est pas étonnant que les problèmes vont s'enchaîner. Et on va avoir un problème relationnel avec une personne, on va quitter la personne pour aller avec une autre personne, et on va reconstruire le schéma. Tristement. Parce qu'il n'y a pas le fondement. Alors vous allez me dire, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui arrivent à vivre en couple, qui arrivent à... Oui, oui. Ça, il y a, bien sûr. Et nous, des fois, en tant que chrétiens, on se dit, oh, ceux-là, ils doivent être vraiment heureux, regarde, tout va bien pour eux. Déjà, on ne sait pas ce qui se passe véritablement, d'accord ? Et peut-être que Dieu, on ne sait pas qui, le diable peut-être aussi, permet qu'ils aient peut-être une vie relationnelle assez, pas conflictuelle ou assez, j'en sais rien, des fois elles sont très déséquilibrées, il y en a un qui domine vraiment sur l'autre, qui manipule l'autre, ou contrôle l'autre, mais des fois ils se contentent, chacun se contente hein, de ça, mais c'est manquer quand même le but. Le but, ce n'est pas juste d'avoir des relations les uns avec les autres. Le but, c'est de connaître Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu va engendrer et porter un fruit dans les relations avec les autres. Donc, l'homme naturel et l'homme charnel aussi. Alors, il y a une différence entre l'homme naturel et l'homme charnel. Ma femme me posait la question dernièrement. Et donc, on voit ça dans 1 Corinthiens 2 et 3, où il est parlé de l'homme naturel ou de l'homme animal. C'est l'homme, le mot qui est utilisé, c'est l'homme psoukikos. C'est l'homme qui vit selon le psouké, selon son âme. C'est-à-dire qu'il va vivre selon ses 5 sens. D'accord, on connaît les 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et il va vivre selon son âme, d'accord ? Et son âme, parce qu'il est pécheur, elle est séparée de Dieu. Donc, dans son âme, il a de l'intelligence, il a de la volonté, il a des émotions. Ça, c'est les 5 parties de l'âme. Il a une conscience, du bien, du mal. Il est conscient aussi de lui-même, la conscience de soi. Donc, ça, ce sont les 5 parties de l'âme. Il va vivre selon ça. Et donc, l'homme animal... eh bien, il établit des relations d'âme. D'accord ? C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas la présence de Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme, c'est ses désirs, c'est ses passions, c'est l'homme. Et dans l'Église, malheureusement, puisque c'est les relations dans l'Église dont on parle, c'est que, bien sûr, on est né de nouveau, bien sûr qu'on a le Saint-Esprit, mais on peut être ce qu'on appelle charnel. Et là, le mot en grec, c'est le mot sarkikos. Et donc, ça veut dire que on a le Saint-Esprit en nous, on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, mais on vit selon le psouké, on vit selon l'âme. Et c'est tragique parce que, quelquefois, c'est juste dans l'Église, et c'est tragique parce qu'on est appelé à vivre autre chose. Dans le monde, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais dans l'Église, on est appelé à vivre différemment et à avoir des relations totalement différentes que ce que le monde a. D'accord ? Et donc, l'homme charnel, il peut avoir une puissance d'âme. D'accord ? Et quelquefois, dans l'Église, il y a des gens qui ont une forte personnalité, une grande puissance d'âme, et ce n'est pas spirituel. C'est juste qu'ils ont une grande bouche, ils ont une grande connaissance, ils ont une grande force d'âme, et ils essayent d'attirer toujours et de continuer à vivre comme ils vivaient avant. Comprenez ce que je veux dire ? Et donc, il faut faire attention que nos relations dans l'Église ne soient pas basées sur l'âme. Sur « tu me donnes, je te donne », on fait des compromis, il n'y a pas Christ qui est au centre. Les relations dans l'Église, elles sont centrées, on a un fondement, c'est Jésus-Christ, on a Christ entre nous. Hein? Christ, notre tête, Christ et le Saint-Esprit et l'Esprit. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit et notre esprit a été réveillé. Maintenant, c'est sur cette base-là que s'établissent nos relations. Et on va y revenir. Alors, les relations naturelles, j'en ai noté quelques-unes peut-être. Différents types de relations naturelles, elles peuvent être fusionnelles, vous avez entendu parler de ça, des relations fusionnelles, ou alors les gens dépendent vraiment les uns des autres, et ça c'est, on ne peut pas dépendre d'un frère ou d'une sœur, que ce soit le pasteur ou pas le pasteur, si le pasteur c'est tragique, ça serait tragique, d'accord ? Le pasteur c'est pas le psy où les gens dépendent de leur psy, de ce qu'il va dire, c'est pas une relation comme ça. D'accord ? Ce que le pasteur dit, c'est important parce que normalement, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, mais on n'est pas dépendant des hommes. Hein ? Pas de relation fusionnelle. Il y a aussi les relations dominées-dominants. Et des fois, tout le monde trouve son compte. Il y a ceux qui aiment dominer, et puis il y a ceux qui aiment être dominés, conduits. Hein ? Après, il y a les relations passionnelles, où on essaye de satisfaire les convoitises de la chair. Évidemment, dans l'Église, on doit fuir les passions de la jeunesse, on doit fuir ce genre de relation parce qu'on a trouvé autre chose qui comble le cœur, qui comble notre valeur, qui comble notre sécurité. Hein ? Il y a des relations intéressées aussi. Et malheureusement, ça existe aussi dans l'Église. Il peut y avoir des gens qui viennent dans des églises simplement pour trouver une femme. Et quand ils auront leur femme, ils s'en vont. Ce qu'ils voulaient, c'était trouver une femme chrétienne, sérieuse, voilà. Où il y a des femmes qui vont se marier avec un homme parce qu'il est riche, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a une grande maison, il a un bon travail, et intéressé. Il ne faut pas... Il ne faut pas. Le cœur de l'homme, il est malade. D'accord ? Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Et on verra que c'est d'ailleurs c'est un des fondements des relations qu'on a dans le corps de Christ, qui est un fondement sain, c'est qu'on ne se fait pas d'illusions sur les autres et sur nous-mêmes. Dans ce monde, il se fait encore des illusions. Puis quand l'illusion, il voit ce qu'il y a derrière, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand tu vois que quelqu'un est avec toi parce qu'il est simplement intéressé et qu'il ne t'aime pas, ça fait très très mal. N'est-ce pas ? Il y a des relations aussi, des relations de clan. Et ça arrive aussi dans l'Église. Hein. L'apôtre Paul en parle, cet esprit de clan, cet esprit de parti. Alors, Dieu est pour la famille, et c'est important que chaque famille, elle ait sa vie, elle ait son intimité, elle ait quelque chose de particulier. Mais lorsque dans la famille, ça devient un contrôle sur la vie des... Alors, évidemment, les petits-enfants, mais quand les enfants deviennent adultes et que la famille continue d'imposer son contrôle ou ses lois ou ses règles ou son clan, et voilà, on n'élève pas les enfants pour qu'ils restent sous nous toute leur vie. On les élève, on les a, et Dieu nous les donne pour un temps, on les éduque pour qu'ils vivent leur vie aussi. Et à un moment donné, on ne peut plus leur imposer les règles parce qu'ils ne sont plus sous notre toit, ils ne sont plus sous notre maison, et qu'il faut qu'ils fassent leur propre... d'accord ? Donc il y a des fois ces clans où le dimanche midi, on mange tous ensemble. Et tu ne peux pas aller ailleurs le dimanche midi, tu ne peux pas faire autre chose le dimanche midi. Bon, je donne quelques exemples pour montrer comment le monde fonctionne. Hein. Alors après, nous, on nous dit, vous êtes à l'église tout le temps, vous êtes enfermés sur vous-même. Mais il y a des familles, ils ne sortent pas, hein, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire, les gens. Ils sont obligés de... Voilà, c'est le clan, c'est comme ça, on fonctionne comme ça, on fait partie de ce clan, et on ne peut pas en sortir. Mais ça, ce n'est pas sectaire, ça, c'est normal. Puis il y a des relations, alors il y en a où chacun arrive à trouver plus ou moins son compte, donc ça continue. Et puis à un moment donné où les choses se déséquilibrent et les relations explosent, d'accord. Alors ça peut être des fois pas forcément dans un couple, hein, on parle de relations aussi, voilà, de gens, ils se parlent, puis il y a quelque chose qui s'est passé, puis ils se parlent plus. Puis voilà, et puis ils s'éloignent de plus en plus. Il y a des relations aussi qui sont toxiques. Ah ça, vous regardez sur Internet, relations toxiques, vous avez plein de choses sur ça. Ah oui, il y a des relations toxiques. Mais c'est quoi ça ? Les jeunes, ils savent ce que c'est, mais peut-être les aînés savent moins ce que c'est. Mais les relations toxiques, hein, c'est des relations très déséquilibrées où quelqu'un vient envahir votre vie privée, quelque part. Hein, et il est tellement en attente, tellement en demande, tellement qu'il impose sa volonté sur la vôtre. Et ce n'est pas les relations où des gens qui ont ces tendances pervers narcissiques, où ils veulent vraiment, c'est comme des... Ils prennent les gens et les sclérosent, d'accord ? Et ils les séduisent. Alors c'est souvent des gens très intelligents, très capables, qui offrent beaucoup de choses, mais qui prennent beaucoup, qui prennent et qui volent, d'accord ? Donc il y a des gens qui, quand on est victime de ça, si on a quelqu'un comme ça au travail, par exemple, qui est responsable, ou si on a un conjoint qui est comme ça, c'est très difficile, très douloureux. C'est toxique. Hein. Voilà, donc la raison principale de tout ça, c'est le péché. Le péché qui est en nous, le péché qui est en l'autre, et qui fait que les relations, souvent, vont être très compliquées. Les conséquences du péché, il y en a trois. Dès que l'homme a eu péché, c'est la honte, la culpabilité, et l'insécurité ou la peur. Et donc on essaye à travers de relations humaines de combler ces choses-là, de couvrir notre honte, en essayant d'avoir beaucoup d'amis, d'accord ? D'être accepté par les autres. Pour les jeunes, maintenant, sur leurs réseaux sociaux, d'avoir des likes, d'accord ? Et ils comptent le nombre de likes qu'ils ont par jour, ce qu'ils ont dit, leurs photos qu'ils ont mises. Pourquoi ? Parce que, voilà, on a cette honte on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être reconnu, hein. On a besoin d'être sécurisé, d'avoir de l'intérêt auprès des autres. Donc tout ça, c'est pour combler le manque de valeur. Et parce que les gens, aujourd'hui, ils grandissent souvent dans une famille où ils ont eu un manque d'affection, un manque d'amour véritable. Alors, ils ont été peut-être nourris comme il faut, et encore peut-être pas toujours, mais enfin... Bon. Mais ils n'ont pas eu l'amour de... voilà, les parents vivaient leur vie et ils n'ont pas reçu ce dont ils avaient besoin. Donc ils sont en recherche de cet amour, ils sont en recherche de cette valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime pour qui je suis ? Et donc on est avec des adultes aujourd'hui qui sont en recherche de ça. Parce qu'ils n'ont pas eu ce fondement dans leur enfance. Ils n'ont pas reçu ça. Donc ça devient... C'est pour ça que les relations sont de plus en plus compliquées. C'est qu'il n'y a plus du tout la base... que moi j'ai eu le privilège de recevoir en tant qu'enfant dans une famille où j'ai eu les deux parents qui m'ont aimé, Ils ont fait des erreurs comme tout le monde, mais ils étaient là et ils ont sacrifié leur vie pour nous et ça a mis un fondement, ça a mis une sécurité dans nos vies. Ça a donné une valeur où on n'est pas en train de courir pour essayer de quelqu'un qui n'a jamais eu un père, par exemple. Bah, il est toujours à la recherche de cet amour du père. D'accord ? Alors une femme va courir après des hommes, va... Mais... Voilà. La tragédie aussi, c'est qu'on est très centré sur nous. Donc, voilà. Si on a une relation et que c'est centré sur moi, la relation, c'est moi le fondement, vous comprenez bien que ça va être compliqué. Donc, les relations sont fragiles. Et on est dans un monde où, tragiquement, on est à un monde de consommation, où on consomme les relations comme on consomme les choses. Voilà. J'ai entendu parler de ça et c'est tragique. Aux États-Unis, aujourd'hui, pour vous dire la tragédie, dans les milieux chrétiens, beaucoup de jeunes ont cette pensée que le premier mariage, de toute façon, c'est raté. Donc on le teste, on essaie, mais de toute façon, on sait que c'est raté. Dans les milieux chrétiens, je ne parle pas du milieu du monde. D'accord ? On part avec cette pensée déjà. C'est tragique. Oui, non mais c'est parce qu'on consomme. On consomme tout, même les relations. Mais ce qu'on ne réalise pas, bon, tu achètes une cafetière, puis au bout d'un moment elle marche plus, tu la jettes, bah, tu peux en acheter une autre. Mais dans les relations, c'est pas pareil. C'est pas je prends un homme et puis bon, je le jette et j'en prends un autre. C'est pas comme un mouchoir, c'est pas, vous comprenez ? Mais on en est, comme on est dans ce système-là, on est pris dans ce système-là, et puis il y a un système autour de nous qui nous pousse à ça. Mais on ne se rend pas compte que les relations, voilà, ça ne nous laisse pas sans... Forcément, ça nous affecte. D'accord ? Et forcément, ça cause des blessures profondes. Parce qu'on désire tous avoir des amis, n'est-ce pas ? Imaginez ou ceux qui ont une expérience des jeunes qui, peut-être, ont du mal à avoir des amis de leur âge. Ils sont en grande souffrance. Je n'ai pas d'amis dans ma classe. Personne qui m'aime, personne qui joue avec moi. C'est tragique. N'est-ce pas ? On est relationnel, on a besoin de ça. On a besoin d'amis, on a besoin d'être aimé. Ça, c'est le grand besoin de l'homme. Et on est en grand manque de ça. Et la tragédie, c'est de penser qu'une relation humaine peut combler ce besoin, que seul Dieu peut combler. Et nous, ça, c'est ce qui change tout pour nous. Ça change totalement tout. Hein ? Parce que quand on n'a pas d'amour, il n'y a pas de confiance. Et quand la confiance est trompée, ben on a des blessures profondes. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui est digne de confiance. Même pas toi, tu es digne de confiance. Même pas moi, je suis digne de confiance. Aucun homme, hein, ne peut mettre la confiance dans la chair, on va le voir ça. Seul Christ est digne de confiance. Alors, pourquoi c'est tellement important les relations dans l'Église ? Parce que maintenant, on va rentrer... Là, je parlais un peu plus général et la réalité, voilà, de sans Dieu, sans l'Église, sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, voilà ce qu'on va vivre. C'est pas étonnant d'avoir des problèmes. Il faut pas s'étonner. Jean 13, 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ah, la façon dont on va établir les relations dans l'Église les uns avec les autres, c'est le moyen d'être une lumière dans ce monde. Mais parce que, effectivement, les relations dans l'Église n'ont rien à voir, et les relations dans le corps de Christ n'ont rien à voir avec les relations sans Dieu. Ah, c'est plus du tout le même fondement, c'est plus du tout le même objectif, c'est plus du tout les mêmes provisions, c'est plus du tout les mêmes besoins. Et j'aimerais vous dire que l'Église, c'est l'école pratique, expérimentale, de l'amour de Dieu en théologie, en théorie, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut expérimenter et qui nous transforme. Donc on a un privilège extraordinaire, celui de découvrir les relations saines dans le corps de Christ. la communion fraternelle. Parce que on a été créé pour ça. Et on a besoin de ça. D'accord ? Mais on a besoin comme Dieu l'avait prévu. Comme Dieu, avec Dieu dedans. S'il n'y a pas Dieu dedans, ça sera une tragédie ou une séduction. Quelquefois, des gens auront des relations passionnées. Vous savez, les relations passionnées, ça ne dure pas. Hein, les relations passionnelles. D'accord ? Et ça, comment ça se termine en général ? Il y en a un qui meurt. Il y en a un qui est tué. Il y en a un qui se suicide. Il y a toujours... Regardez les livres, les histoires. Comment ça se termine, les histoires ? C'est un feu de paille et ça finit tragiquement. Mais c'est les... Parce que c'est le diable qui nous fait croire. Et il nous fait croire ça aujourd'hui dans ce monde. Il a les médias pour lui, les films pour lui, la musique pour lui, tout pour lui. Et les gens courent après ça. Alors qu'il y a un Dieu qui est là. Qui, oui, c'est vrai, Ésaïe 53, il n'y avait rien pour attirer les regards. Il n'y a rien qui... C'est Jésus. Et pourtant, il est la réponse. Parce que en Christ, on est sur un autre fondement. Il est le roc, hein, dans 1 Corinthiens 10, 4. Hein, qui dit que Jésus est le rocher. Et c'est seulement Jésus-Christ et la croix de Christ qui nous permet d'établir un fondement saint. Et voici comment... Alors ça paraît un peu tragique ce que je vais vous dire, mais c'est important de l'avoir, ce fondement. Ce fondement, c'est que si on parle de Christ et de sa croix, c'est que ça commence par Romains 3, 23 et 24, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le fondement. C'est qu'on est tous pécheurs. Donc, si on vit d'illusion des hommes, vous pouvez vous illusionner sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. À un moment donné, vous allez atterrir et l'atterrissage fera très mal. Mais si on part sur ce fondement que je ne mets pas ma confiance dans la chair parce qu'on est tous pécheurs, alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas de relation avec les gens, hein, on va voir. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous pécheurs, ok, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. D'accord ? Donc oui, on est tous pécheurs, donc on ne met pas notre confiance dans la chair, mais maintenant on a Christ en nous. Et c'est ça qui change tout. C'est qu'en lui, on est une nouvelle création. En lui, avec lui, par lui et pour lui, il y a des relations saines qu'on peut bâtir. Mais elles ne sont plus basées sur la chair. Et ça nous met tous sur le même pied d'égalité. On a tous eu besoin du sang de Christ. Point bas. Il n'y en a pas, moi je suis un peu moins pécheur, plus pécheur. Non, on est tous pécheurs. Ça se décline de différentes manières. D'accord ? Ça s'exprime, ça ne sent pas la même odeur, mais c'est que de la mauvaise odeur quand même. Donc on est tous pécheurs, mais on est tous pardonnés. Et on est tous sauvés de nos péchés, de l'esclavage du péché. Donc maintenant, il y a quelque chose de possible. Vous comprenez ? Si on n'est plus sur ce fondement où il y a le péché qui est là, et la relation naturelle, la relation d'âme, maintenant, si c'est une relation selon l'esprit, ah, là, ça change les choses. Ça change mon regard, ça change mes attentes, ça change tout. Et donc Dieu va me placer dans son corps pour apprendre à construire ou reconstruire les relations saines. Et si on établit des relations saines dans le corps de Christ, si on se laisse aimer, si on apprend à aimer, eh bien, on va devenir ses témoins. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on verra qu'on est des disciples de Jésus-Christ. On pourrait traduire autrement, dire ce verset, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples » si vous avez des relations saines les uns avec les autres. Si vous avez grandi, établi... Alors, on apprend, hein, on grandit dedans. Il y a encore des problèmes parce qu'on est des pécheurs toujours, mais on tend dans cette direction-là. On tend à revenir à ce fondement-là. On apprend, on construit, on reconstruit. Donc déjà, on part sur ce postulat. On sait que l'autre est pécheur, qu'il n'y a pas de juste, et qu'on est tous malades, et totalement malades. Hein. C'est la Bible qui le dit. Je vous donne quelques références si vous notez. Et Ésaïe 1, 5, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. Ésaïe 1, 5 et 6. Hein. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Donc, l'homme naturel, il ne veut pas entendre ça. D'accord ? Parce qu'il ne sait pas que s'il accepte de mourir et de prendre, d'accepter la croix de Christ, derrière, il y a une vie de résurrection où il n'est plus tout ça. Et c'est là que nos relations sont appelées à s'établir. C'est après la croix. Mais il faut accepter la mort. Il faut accepter le constat de Dieu. Pour justement plus avoir des relations selon l'âme. Parce que là, c'est des relations de malades, de fous, de gens souffrants, et de gens qui ne sont pas en bon état. Alors c'est normal que les relations ne soient pas en bon état. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le cœur de l'homme, il est méchant. Qui peut le connaître ? Et Paul dira en Romains 3, 10 qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc, ça c'est réglé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de relations sont brisées ou déçues ou vont mal parce qu'on met une attente illégitime sur l'autre. C'est qu'on attend que l'autre, mon mari, il doit m'aimer comme... voilà, il doit combler tout mon besoin d'amour. Non, c'est impossible. Impossible. Et dans le christianisme, malheureusement, on part sur cette base des fois. Parce qu'on n'a pas été enseigné dans la vérité et dans la parole de Dieu. Mais c'est seulement Dieu qui peut combler notre besoin d'amour. D'accord ? Et bien sûr que notre mari, il est appelé à aimer, hein, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et de donner sa vie pour son épouse. Mais il est imparfait. Donc si on attend des choses parfaites, et qu'à un moment donné, ben, il y a un dérapage, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, on casse tout. Et on va dire, ah ben, c'était pas le bon, il faut aller en chercher un autre. Mais tu peux essayer avec 1000, 10 000, 100 000, ça sera le même problème. D'accord ? Donc déjà, on n'a pas d'attente illégitime sur l'autre, parce qu'il est pécheur, l'autre. Il a besoin d'être aimé. Alors qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est très simple. C'est que les relations aujourd'hui, comme elles sont centrées sur moi, elles sont centrées sur mon besoin d'être aimé, et j'attends que l'autre m'aime. Et comme il me déçoit dans cette attente, je ne l'aime plus. Mais maintenant qu'on a Jésus-Christ, ça change tout. C'est que maintenant, j'ai l'amour de Dieu. Et je peux aimer l'autre, peu importe s'il m'aime ou pas. Et on va avancer sur ça. La plupart des relations, aujourd'hui, sont motivées, elles ont une motivation qu'on appelle de déficit. Elles sont motivées par un manque. Elles sont établies sur un manque, elles sont établies sur un besoin. Elles ne sont pas établies sur la vérité par la foi dans l'amour de Dieu. Et vous connaissez ce verset qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Est-ce que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui t'aime ? Tu réponds à l'amour, n'est-ce pas ? Mais comme les gens aujourd'hui, ils attendent que l'autre fasse le premier pas et qu'il commence à aimer, ils n'aiment pas. Et personne ne s'aime en vérité. On s'aime soi-même. Mais si on a l'amour de Dieu, qu'on ne ressent pas forcément toujours pleinement, parfaitement la présence de Dieu, mais on vit, on s'appuie par la foi sur cet amour, sur ses promesses, sur sa parole, et qu'on choisit d'aimer l'autre, pas parce qu'il est aimable, pas parce qu'il va m'aimer en retour, mais de l'aimer inconditionnellement comme Dieu m'a aimé, et qu'on sème cet amour-là, on risque de récolter l'amour aussi. Mais on n'est pas en attente de cet amour. On n'est pas demain, on n'est pas de dire « Ah ben, moi je t'ai aimé, maintenant il faut que tu m'aimes en retour. » On aime. Et c'est ça l'amour. C'est que si l'amour attend quelque chose en retour, c'est plus l'amour. D'accord ? C'est que cette saturation d'amour va produire, à un moment donné, une réaction d'amour. Et quand nous, on a compris qu'on est aimé comme ça, c'est pour ça que s'il n'y a pas Dieu... S'il n'y a pas Jésus-Christ, c'est impossible. Mais quand on a Christ en nous, et quand on sait qu'on est aimé, et Romains 8, 30 dit qu'on a été racheté, adopté, appelé, justifié, glorifié, quand on sait qui on est, eh bien on est sécurisé et on a de la valeur. Ce qui fait qu'on a un fondement, on n'est plus dans une motivation de déficit, on est dans une vraie motivation d'amour. et ça change absolument tout des relations. Et c'est tellement important. La tragédie, c'est que, comme on est des êtres humains, si on ne vit pas de ces choses-là, on peut vivre encore centré sur nous, dans la chair, dans l'âme, et établir des relations d'âme avec les autres. Mais nous, on a la possibilité de vivre autre chose. Et c'est pour ça que le corps de Christ est tellement important pour apprendre ça. Parce que, sérieusement, pour nos aînés qui sont là, c'est quoi le plus important ? C'est d'avoir des millions en banque ou d'avoir des relations saines avec les gens, d'aimer les gens, d'être aimé les gens, d'avoir des gens autour de nous avec qui on a vécu ce chemin. Et quand on passe les uns aux autres, c'est pareil, il m'a fait ceci, il m'a pas fait cela. Et lui, je peux plus lui parler. Oh, lui, je le sens pas. Lui, j'ai pas envie de le voir. Lui, heureusement qu'il est parti de ma vie. Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Hein. Alors les gens, ils déménagent. Ils déménagent dans la tête, oui, et dans le corps. Et puis, ils ont des nouveaux amis. Alors, au départ, c'est magnifique. Et puis, ça va refaire la même chose. La même chose, c'est le même fondement. C'est tragique. D'accord ? Les relations, c'est notre richesse. Et pour nous qui sommes croyants, c'est d'autant plus notre richesse que le matériel, on ne l'emportera pas au ciel. C'est quoi qu'on va emporter ? C'est ces relations-là. C'est cet amour-là qu'on aura vécu, reçu, partagé, expérimenté. Alors, il faut qu'on s'arrête là, parce que c'est l'heure. Mais c'est pas fini, hein. On a encore plein de choses à communiquer, donc on continuera la semaine prochaine. Ça vous motivera à revenir la semaine prochaine, j'espère.